Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 17 janvier 2025. D'ici l'an prochain, la Ville de Québec pourrait devenir la première ville capitale désignée comme région de biosphère par l'UNESCO. Le maire Bruno Marchand a annoncé mercredi que le dossier de candidature de la capitale nationale allait être déposé dans les prochains jours. Les régions de biosphère de l'UNESCO visent, entre autres, à protéger la biodiversité et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones. La Ville de Québec a notamment collaboré avec la nation Huron-Wendat pour sa candidature. On peut écouter le grand chef Pierre Picard.
Un territoire en santé, c'est un peuple en santé. La nation Wendat compte donc participer activement, tant au niveau des orientations stratégiques qu'au niveau de la délimitation des différentes zones de conservation.
Pour rappel, la Ville de Québec s'est engagée à protéger 30 % de ses milieux naturels d'ici 2030. Une étude menée par le Gris Montréal révèle une hausse préoccupante de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et de genre. Plus de 35 000 questionnaires ont été complétés par des élèves du secondaire dans plusieurs régions du Québec. Entre 2017 et 2024, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami a doublé. Il passe de 15,2 % à 33,8 % pour une amie lesbienne et de 24,7 à 40,4 % pour un ami gay, explique Gabrielle Richard, directrice de la recherche au Gris Montréal, qui insiste sur l'urgence d'agir pour protéger les droits et la sécurité des élèves. La Maison Revivre, un organisme d'hébergement pour hommes en situation d'itinérance ayant pignon sur la rue Saint-Vallier-Ouest, est aux prises avec une éclosion de gastro-entérite. Afin de prévenir la propagation aux usagers, l'organisme se voit obligé de cesser ses activités qui reprendront lundi 20 janvier. D'ici là, le répertoire des espaces chaleur est disponible en tout temps sur le site du RAIQ, RAIIQ.org. Pour les ressources alimentaires, l'organisme Touski les répertorie sur sa page Facebook. Les jeunes qui ont participé à l'expédition Cabestan sur le fleuve Saint-Laurent l'automne dernier lancent aujourd'hui au Centre Jacques-Cartier l'exposition Samariné, récit de voyage à bord de l'Écomaris. C'est donc un rendez-vous au Centre Jacques-Cartier, au 421 boulevard Langelier, à partir de 17h, pour un vernissage et des performances. Le collectif Ramen présente aujourd'hui une soirée de poésie à micro ouvert à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Au programme, les voix importantes même nécessaires de Mona Pilot et Pascal Bérubé. Les portes ouvrent à 19h30 et la soirée commence à 20h. Contribution volontaire suggérée de 10$. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Dans notre pays relativement libre, la plupart des gens sont tellement absorbés par pure ignorance et pure erreur dans les soucis factices et les labeurs inutilement rudes de la vie qu'ils sont incapables de cueillir les fruits les plus jolis que cette même vie peut offrir. L'excès de travail a rendu leurs droits, leurs doigts trop gourds et trop tremblants pour cette cueillette. En réalité, le travailleur n'a dans sa quotidien aucun loisir pour aucune expression d'intégrité véritable. Il ne peut se permettre d'entretenir de vraies relations humaines avec ses prochains car son labeur s'en trouverait déprécié sur le marché. Il n'a pas le temps d'être autre chose qu'une machine. Comment peut-il se souvenir correctement de son ignorance, condition nécessaire pour grandir, alors qu'il passe son temps à user de son savoir? Nous devrions parfois le nourrir et le vêtir gratuitement, lui offrir quelques cordiales avant de le juger. Comme l'éclat d'un fruit mûr, les plus belles qualités de notre nature ne se préservent que si l'on les manipule avec la plus grande délicatesse. Mais nous ne nous traitons pas nous-mêmes et nous ne traitons pas les uns les autres avec ce genre de tendresse.
Fin de soif.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Alors, aujourd'hui, on va aborder une vertu. La vertu. Selon Cicéron, c'est la vertu la plus importante, c'est la gratitude. C'est une vertu que je pense qui est très d'actualité. Alors, on va aborder ça aujourd'hui. Avant ça, ben j'ai mes lectures, ma revue de presse. Tout d'abord, je aussi une annonce là, pour ceux qui s'intéressent. Ce soir, on a un café philo au café à la librairie La Liberté, on peut dire café, La Liberté, sur le chemin de la route de l'église à Sainte-Foy. Alors, ceux qui s'intéressent, vous avez seulement qu'à téléphoner à la librairie pour réserver votre place. C'est ce soir à 19h. Dans les choses que j'ai retenues cette semaine, j'ai deux articles du Devoir que je trouve intéressants. Il y en a un qui est sur l'évolution des GES au Québec. Comment évoluent les GES au Québec? Puis, c'est un article de Alexis Riopel dans le Devoir de mardi, page A5. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé. On avait annoncé une réduction quand même importante des émissions. Là, on voulait se rapprocher là, de, je pense que c'était moins de 30% des émissions de 90. Et on a 7,2%. Ça n'a presque pas diminué. Puis en fait, le fameux 7,2% inclut la bourse du carbone, les crédits de carbone que les Californiens achètent. Donc, si il y a une réduction, oui, d'émissions en Californie par les crédits de carbone, puis nous, on se trouve à le mettre dans notre bilan, mais c'est pas vraiment une grosse diminution. Puis ce qu'on voit même, c'est les émissions par habitant. Alors, on est parti en 92 d'environ 12 tonnes de CO2 par habitant par année. Puis on est actuellement à 9. Puis, en fait, pour contenir le réchauffement mondial à 1,5, ce qui est déjà atteint, un seuil désormais franchi, le programme de l'ONU pour l'environnement proposait en 2020 de viser des émissions annuelles de 2 tonnes de CO2 par personne. Alors, on est très loin du compte. En tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver de ce côté-là, mais on progresse presque pas, on fait du surplace. Et dans la même... Le même ordre d'idée, ben on ne peut pas passer à côté des feux qui sont en train de se produire là, à Los Angeles ou autour de Los Angeles. Ça brûle, il y a des milliers de maisons. Puis c'est, en fin de compte, les changements climatiques là, qui se manifestent. On dit, l'autre article que j'ai retenu, c'est le texte de José Blanchet. Dans le Devoir d'aujourd'hui, là, page A8, la chronique de José Blanchette, alerte à Malibu. On dit que la ville de Los Angeles, seconde ville en Amérique du Nord, c'est le pouvoir, seconde ville américaine, c'est le pouvoir du bitume sur la nature, glam, botoxé, bling, bling. De location, les faux antidépresseurs, toute notre symphonie de l'artifice et notre culte de la richesse qui sont frappés de plein fouet par une réalité désormais incontournable. Les réseaux sociaux sont remplis de statuts dissonants. Les gens qui s'affichent encore dans la plus parfaite insouciance sur une plage, sur une terrasse italienne, pour toutes sortes de raisons, flanquées par un bilan de carbone inquiétant. Rappelons que des touristes surfaient en toute indécence, tandis qu'Hawaï brûlait en arrière-plan en 2023. Le très polluant voyage en avion est considéré comme l'ultime forme de réussite professionnelle aussi, après la fusée vers Mars. Nous sommes les idiots inutiles d'une fable dont le récit est figé dans l'argent et le besoin de faire envie. D'une part, le cadre dominant d'explication du monde est aujourd'hui celui de la représentation économique des choses, écrivait le journaliste Hervé Kempf dans son best-seller « Comment les riches détruisent la planète » en 2007. Il ajoutait « Le mode de vie des classes riches les empêche de sentir ce qui les entoure. Aujourd'hui, une partie de ces riches ont humé l'odeur irritante des flammes de l'enfer contre Éole. » Tout autant l'astrophysicien et philosophe Aurélien Barreau qu'Hervé Kempf ou Marc Duguin estiment que l'heure du compte est terminée. Selon Duguin, notre dépendance à la consommation, biens et services, tourisme, une des drogues les plus dures qui soient, ne cessera pas tant que nous n'aurons pas changé le récit collectif et imaginaire. Certains défendent, par exemple, que la crise écologique devrait devenir fun et sexy pour que la population s'y intéresse. Autrement dit, tant que les catastrophes environnementales ou civilisationnelles ne divertiront pas les consommateurs avides de sensations fortes, rien ne se passera. Cela veut donc dire que l'écologie finirait par apparaître comme une grave menace à la production de dopamine. C'est sûr que de parler de la fin du monde en pleine orgie capitaliste, ça casse l'ambiance. En tout cas, c'est un texte assez dur de José Blanchette. Elle dit « Nous vivons dans une douce dictature, selon Duguin, et on fait un peu comme si de rien n'était. Les récits du capitalisme néolibéral et du numérique nous embrigadent, nous soumettent et nous conforment à leur vision mortifère. De cette servitude volontaire, nous devons nous extraire et trouver le courage de changer notre représentation du monde, son récit. Le courage est la première qualité humaine, car elle garantit toutes les autres, rappelle Duguin, en citant Aristote. » En tout cas, texte de José Blanchette que j'ai dans le Devoir d'aujourd'hui que je vous recommande. Alors, on prend une petite pause musicale. Au retour, on va parler de la gratitude, mais avant ça, je vais vous parler du dernier livre de Frédéric Lenoir sur Marc Aurèle.
Reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Ils viendront de fleurs qui s'installent toutes fraternelles et amicales loin des champs de bataille où des humains sont pris en tenaille. Ils s'activent lorsque je me tais, sont pleins de promesses, je le sais, qu'arrive la calmie nécessaire pour chérir entre ciel et terre. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches.
Alors, comme je vous disais, avant de parler de gratitude, je voudrais parler du livre de Frédéric Lenoir, Le rêve de Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui nous aide à vivre. Marc Aurèle, c'est un philosophe stoïcien. On en a parlé souvent à l'émission. On va y revenir. D'ailleurs, je veux revenir sur le livre de Frédéric Lenoir. Ces temps-ci, on l'a vu avec l'article de José Blanchet, puis on va voir ce que M. Trump nous réserve, mais c'est pas un temps qui est facile. Alors, Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, qui était philosophe, lui-même a vécu des moments assez difficiles en tant qu'empereur, et c'est un empereur qui a laissé sa marque comme un grand sage. C'est rare qu'on voit ça, là. En tout cas, un empereur romain sage. Et puis, il a laissé un texte qui s'appelle « Penser par moi-même ». Alors, je vous lis quelques extraits là, du livre de Frédéric Lenoir. « Tout me convient de ce qui te convient au monde. Rien pour moi n'est prématuré ni tardif de ce qui est pour toi de temps opportun. Tout est fruit pour moi. » De ce que produisent tes saisons aux natures. Tout vient de toi, tout réside en toi, tout retourne en toi. Alors ça, c'est très stoïcien, c'est une parole de Marc Aurèle. On dit, ça c'est dans le livre de Frédéric Lenoir, les historiens de l'Antiquité saluent de manière unanime les vertus et le rayonnement de Marc Aurèle. L'auteur de l'Histoire Auguste souligne que dans toute sa vie, il se conduit en philosophe et qu'il l'emporta sur tous les princes qui l'avaient précédé par l'honnêteté de sa conduite. Aurelius Victor loue sa sagesse de bienveillance, son honnêteté, sa culture. Eutrope écrit « De toute sa vie, il fut d'une absolue sérénité, si bien que cela même depuis son enfance, son visage ne s'altérait jamais, ni sous l'effet de la joie, ni sous celui de la tristesse. » Pourtant, cette sérénité, Marc Aurèle doit apprendre à la conserver dans un contexte de crise grave. Si l'Empire connaît une période de paix et de prospérité pendant les 23 ans qu'il passe auprès d'Antonin, les 19 années de son propre règne sont troublées par de nombreux événements dramatiques. Crue exceptionnelle du Tibre à Rome, tremblement de terre, famine, terrible épidémie de variole, révolte aux confins de l'Empire, trahison de l'un de ses généraux, etc. Cette suite de catastrophes inédites depuis plus de 150 ans dans l'Empire, loin de décourager Marc Aurèle, le renforce dans sa quête de l'équanimité, cette vertu stoïcienne qui permet de rester serein en toutes circonstances. Elle ne l'empêche pas non plus de faire parfois évoluer le droit, notamment en faveur des femmes et des esclaves, de développer les arts libéraux, d'embellir les villes, de fortifier les frontières de l'Empire. Alors, Marc Aurèle, c'est comme l'exemple parfait ou ultime du grand chef d'État, du grand leader, on peut dire, là. Ici, un peu plus loin, je poursuis encore avec Frédéric. Même s'il reste fort éloigné de nous par son attachement à la culture romaine de son temps, Marc Aurèle nous touche parce qu'il est tout sauf donneur de leçons. Il livre avec sincérité, parfois avec une certaine mélancolie ou un certain désabusement, ses pensées sur lui-même, la grandeur et la bassesse de l'être humain, sur qui il est mieux, la triste ou le met en joie. Son propos est universel et intemporel car il parle de l'ambivalence du cœur humain, du sens de la vie, des difficultés à bien agir, des plus nobles aspirations de l'âme, des faiblesses du corps, du désir de s'améliorer, du désir de vivre en harmonie avec soi-même et avec autrui, d'apprendre à se maîtriser et d'être utile aux autres, de notre quête de sérénité face à l'adversité. Comme le dit si justement Pierre Hadot, il se parle à lui-même, mais nous avons l'impression qu'il s'adresse à chacun de nous. Aussi ai-je été souvent ému en me plongeant dans la vie et la pensée de cet homme complexe et hors du commun. Pierre Hadot a écrit sur Marc Aurèle, d'ailleurs, et comme Frédéric Lenoir l'a dit, il va faire souvent référence à lui. Alors, on va revenir parce que Pierre Hadot, c'est un de nos auteurs fétiches en toute simplicité. On y revient souvent. Au cœur de cette première partie, à propos de l'engouement de Marc Aurèle pour la philosophie, je développerai quelques notions sur les écoles de sagesse de l'Antiquité, sur la pensée stoïcienne à laquelle le futur empereur sera initié et qui bouleversera sa vie. Je reconnais ici ma dette envers Pierre Hadot, éminent spécialiste de la philosophie antique et ancien professeur au Collège de France, qui a su montrer la dimension existentielle des sagesses de l'Antiquité, ce qui éclaire sous un jour nouveau les pensées pour moi-même et permet d'en saisir toute la richesse et la profondeur. Alors, on prend une autre petite pause musicale et au retour, on va aborder la gratitude.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Alors, c'était Nat King Cole qui interprétait la chanson « Smile » qui est à partir d'une... C'est une belle, très belle chanson qui vient de, d'une musique de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin avait composé cette musique-là pour son film « Les temps modernes ». Et puis dans les années 50, il y a deux paroliers qui ont mis des paroles sur la musique de Charlie Chaplin. Puis c'est Nat King Cole qui... Il y a plusieurs interprétations de « Smile ». Mais Nat King Cole, je crois que c'est le premier à l'avoir interprété. Alors, c'est ce que vous avez entendu ce matin. Une chanson qui nous... qui parle de gratitude, dans le fond. Et pour commencer, j'ai deux lectures. J'ai une revue que j'aborde pas souvent. Bien, en fait, j'aborde jamais cette revue-là, mais que je lis régulièrement, que c'est la revue Parabola, que je vous recommande. C'est une revue... Ça s'appelle... Le sous-titre, le nom de la revue, la recherche du sens. Pourquoi je l'utilise jamais à l'émission, c'est que c'est une revue américaine, anglaise. Donc, il faudrait que je traduise, ça serait fastidieux. Mais aujourd'hui, je vais y aller avec... parce qu'il y a un beau texte sur la gratitude dans ce numéro-là. Alors, je vais y aller, disons, avec quelques extraits. Puis après ça, je vais poursuivre avec... le livre de André Comte-Sponville, Le petit traité des grandes vertus, qui aborde aussi la gratitude. C'est un texte, comme je vous disais, dans la revue Parabola. C'est le dernier numéro. C'est une revue qui sort, c'est trimestriel. Alors, c'est le numéro hiver 24-25. Sur, justement, le thème de la revue, ce numéro-là, c'est sur la gratitude. Alors, c'est l'auteur, c'est un moine bénédictin qui s'appelle David Steindl-Rast, S-T-E-I-N-D-L-R-A-S-T. Puis, c'est sur la vie, on pourrait dire la vie en gratitude. Puis, il nous dit que le fameux philosophe Cicéron disait que la gratitude, c'était la mère de toute comme je vous disais tantôt, la mère de toutes les vertus, la plus importante. Et il dit, quand on... je vous cite quelques extraits de la revue. Quand on s'éveille de notre manière de faire, qui est de toujours prendre, on se rend compte que quand on s'ouvre à la gratitude, on réalise que le plus grand don de tous, en fin de compte, c'est la vie elle-même. La vie se donne à nous gratuitement, entièrement, et à chaque moment. Et dans le fond, c'est la base, la gratitude de réaliser qu'on a la vie, dans le fond. Un peu plus loin, il dit seulement la vie en gratitude peut nous donner la joie, le sens de la vie. C'est la clé, vous tenez la clé en vos mains. Elle guérit, elle transforme la pauvreté en richesse. C'est ça, elle nous remplit de joie et de calme. Un peu plus loin, il dit... cette joie peut être la nôtre. La vie en gratitude peut nous guérir d'un sens qu'on mérite tout et de nous aider à vivre l'art de la frugalité. Parce que la frugalité veut dire la vie intentionnelle. Alors ça, on en parle beaucoup, la vie frugale en toute simplicité. Et la vie frugale, elle nous permet d'être éveillés, en alerte, orienté vers nos propres choix. C'est ça, la simplicité volontaire, c'est vivre en fonction de nos propres choix. En tout cas, c'est quelques petits extraits là, de cette revue-là que je vous recommande, la revue Parabola, qu'on trouve dans les kiosques à Québec. Maintenant, je vais poursuivre avec André Comte-Sponville qui a écrit un livre sur les vertus. Qui s'intitule « Petit traité des grandes vertus ». Puis il y a là-dedans environ une vingtaine de vertus qui sont présentées. Les vertus, c'était, en fin de compte, ce que la philosophie dans l'Antiquité nous disait de pratiquer. Il disait de pratiquer la vertu pour être heureux. Comme je disais tantôt, en parlant de Marc Aurèle et de Frédéric Lenoir, et ce que Pierre Hadot nous a dit, c'est que dans l'Antiquité, la philosophie, c'était une pratique, un mode de vie. C'est différent d'aujourd'hui, comment on voit la philosophie, qui est plus une façon de réfléchir, de réfléchir sur les choses. Ce n'est pas nécessairement un mode de vie. Dans l'Antiquité, c'était un mode de vie. Il y a eu un changement. Alors, on appelle toujours ça philosophie, comme dans l'Antiquité, mais ce n'était pas la même chose. Et la pratique des vertus, ben, c'était à la base des philosophes, la philosophie. Alors, je vous lis quelques extraits de Comte-Sponville. Il dit « La gratitude n'a rien de donné que ce plaisir d'avoir reçu. Quelle vertu plus légère, plus lumineuse, on voudrait dire plus mozartienne, et pas seulement parce que Mozart nous l'inspire, mais parce qu'il la chante, parce qu'il l'incarne, parce qu'il a en lui cette joie, cette reconnaissance éperdue pour on ne sait quoi, pour tout cette générosité de la gratitude, oui. » Quelle vertu plus heureuse et plus humble, quelle grâce plus facile et plus nécessaire que de rendre grâce justement dans un sourire ou un pas de danse, dans un chant ou un bonheur. Générosité de la gratitude, cette dernière expression que je dois à Mozart m'éclaire. Si la gratitude nous fait défaut si souvent, n'est-ce pas encore par incapacité de donner plutôt qu'à recevoir, par égoïsme, plutôt que par insensibilité. Remercier, c'est donner. Rendre grâce, c'est partager. Ce plaisir que je te dois, ce n'est pas pour moi seul. Cette joie, c'est la nôtre. Ce bonheur, c'est le nôtre. L'égoïste peut se réjouir de recevoir, mais sa jouissance même est son bien qu'il garde pour lui seul. Ou, s'il la montre, c'est plus pour faire des envieux que des heureux. Il exhibe son plaisir, mais c'est son plaisir. Que d'autres y soient pour quelque chose, il l'a déjà oublié. Que lui font les autres. C'est pourquoi l'égoïste est ingrat. Non parce qu'il n'aime pas recevoir, mais parce qu'il n'aime pas reconnaître ce qu'il doit à autrui. Et que la gratitude est cette reconnaissance par ce qu'il aime, parce qu'il n'aime pas rendre, et que la gratitude rend grâce en effet, parce qu'elle n'aime pas partager, parce qu'il n'aime pas donner. Que donne la gratitude? Elle se donne elle-même, comme un écho de joie, disais-je. Par quoi elle est amour? Par quoi elle est partage? Par quoi elle est don? C'est plaisir sur plaisir, bonheur sur bonheur, gratitude sur générosité. L'égoïste en est incapable, qui ne connaît que ses propres satisfactions, que son propre bonheur, sur quoi il veille, comme l'avare sur sa cassette. L'ingratitude n'est pas incapacité à recevoir, mais incapacité à rendre, sous forme de joie, sous forme d'amour, un peu de la joie reçue ou ressentie. C'est pourquoi l'ingratitude est si fréquente. Nous abordons la joie comme d'autres la lumière, trou noir de l'égoïsme. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on poursuit au retour avec la gratitude. Alors, c'était Nathalie Choquette. Très beau. C'était un, en fin de compte, c'était un coffret, 3 CD. Magnifique. Celui-là, c'est le CD Eterna. Et la pièce, c'était Air sur la corde de sol de Jean-Sébastien Bach. Bon, avant ça, on avait eu, comme je disais tantôt, Nat King Cole, Smile. Avant ça, on avait eu Jean-Marc Aurel. La pièce, c'était Fruits et mystères de son dernier album qui vient de sortir, Je cours après la lune. Puis, en début d'émission, on a eu Richard Séguin de son album Le retour à Walden. C'est la pièce Dans les bois. Bon, je continue avec André Comte-Sponville, petit traité des grandes vertus sur la gratitude. Alors, la gratitude est don, la gratitude est partage, la gratitude est amour. C'est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause, comme dirait Spinoza, quand cette cause est la générosité de l'autre, ou son courage, ou son amour. Joie en retour, amour en retour. Au sens propre, elle ne peut donc porter que sur des vivants. Il y a lieu toutefois de se demander si toute cette joie reçue, quelle qu'en soit la cause, ne peut pas être l'objet de cette joie en retour qu'est la gratitude. Comment ne pas à savoir gré au soleil d'exister, à la vie, aux fleurs, aux oiseaux? Aucune joie ne me serait possible sans le reste de l'univers, puisque sans le reste de l'univers, je n'existerais pas. C'est en quoi toute joie, même purement intérieure ou réflexive, a une cause extérieure qui est l'univers, Dieu ou la nature, qui est tout. Nul n'est cause de soi, ni donc, en dernière instance, de sa joie. Toute chaîne de causes, et il en existe une infinité, est infinie. Tout se tient et nous traverse. Tout amour, poussé à sa limite, devrait donc tout aimer. Tout amour devrait être amour de tout. Plus nous aimons les choses singulières, pourrait dire Spinoza, plus nous aimons Dieu. Et cela se ferait comme une gratitude universelle, non certes indifférenciée, comment aurait-on la même gratitude pour les oiseaux et pour les serpents, pour Mozart ou pour Hitler, mais globale en ceci, du moins, qu'elle serait gratitude pour le tout, dont elle n'exclurait rien, dont elle ne refuserait rien, même le pire. Puisque le réel est à prendre ou à laisser, puisque le tout du réel est l'unique réalité. Cette gratitude est gratitude en ceci qu'on ne saurait exiger d'elle ou pour elle quelque paiement que ce soit. La reconnaissance est peut-être un devoir, en tout cas une vertu, mais ne saurait être un droit, remarque Rousseau, que de l'exiger ou que d'exiger quoi que ce soit en son nom. Ne confondons pas la gratitude avec les renvois d'ascenseur. Il n'en reste pas moins que l'amour veut du bien à l'aimé, presque nécessairement, du moins, s'il est amour de l'autre plutôt que de soi, de bienveillance, donc plutôt que de concupiscence. J'aimerais faire une petite parenthèse. Je vais poursuivre avec Comte-Sponville sur la gratitude. Je reviens encore à la revue sur la gratitude, la revue Parabola qui parle de gratitude dans ce numéro-ci. Puis, justement, Comte-Sponville, il dit comment aimer le serpent autant que, je ne me souviens plus, les oiseaux. Moi, j'ai une autre vision. Je trouve qu'on a de la difficulté. On a comme catégorisé les animaux. Puis quand on s'intéresse aux animaux, ils sont tous intéressants. Il y a dans la revue Parabola, il y a un texte sur un rat. Alors, il parle, c'est un amour pour les rats. Et c'est un petit témoignage de quelqu'un qui avait adopté un rat. Puis il disait... Le rat, en vivant avec, il aurait dit que c'était un être fabuleux. Et il était agile, sympathique, affectueux. On pouvait le transporter sur notre épaule. Il s'assoyait et sentait mon oreille, grignotait, sentait délicatement et me chatouillait avec ses moustaches. Il était toujours respectueux, poli, raffiné, fiable. Il ne m'a jamais mordu, m'a jamais graffiné. Il s'est jamais excité. Et puis il parle de son rat, puis il dit qu'il s'appelait Lenny. Lenny, le rat, avait été une grande âme. Et puis il raconte que à la fin de sa vie, Lenny était malade, il était vieux, il avait comme une tumeur. Puis son rat était couché dans sa cage. Le propriétaire du rat, il avait une commission à faire, il est sorti aller à l'épicerie. Puis tout d'un coup, en regardant au-dessus des maisons, au-dessus de l'épicerie, au-dessus des édifices, il a vu une boule de feu traverser le ciel. Et là, il s'est dit, « Ah, c'est mon rat Lenny qui vient de décéder. » Il dit, « J'ai vu dans le ciel le rat, l'âme de mon rat qui était mort. » Et il a même rencontré quelqu'un qui avait vu la même boule de feu. Alors, c'était un beau signe. C'est peut-être pas son rat, mais moi, je pense que c'est possible. Il y a des choses comme ça qui arrivent, magiques, des liens avec les animaux. Alors, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Puis, ce sujet-là, on va y revenir parce que vers la fin du mois, je voudrais... On va parler de véganisme et de rapport avec les animaux. C'est un thème que je voudrais réaborder là, dans les émissions à venir. Alors, on prend une autre petite pause musicale, puis au retour, on va poursuivre avec Consponville sur la gratitude. c'était Flore Laurentienne, c'est le nom de l'album. Je pense que le musicien, on dit c'est Mathieu David Gagnon. Mais en tout cas, le nom de l'album, Flore Laurentienne, c'était la pièce Voile. C'est un album qui est récent. Et cet album-là a gagné un prix là, à la disque dernièrement. C'est un très bel album. Et puis j'adore le titre Flore Laurentienne, qui est un peu un clin d'œil à la Flore Laurentienne de Marie-Victorin, qui était une de nos plus belles œuvres scientifiques québécoises. Alors, je poursuis avec André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus. La gratitude se réjouit de ce qui a lieu ou de ce qui est. Elle est ainsi l'inverse du regret ou de la nostalgie qui souffre d'un passé qui ne fut pas ou qui n'est plus, comme aussi de l'espérance ou de l'angoisse qui désire ou craigne, désire et craigne. Un avenir qui n'est pas encore, qui ne sera peut-être jamais et qui les torture pourtant de son absence. Gratitude ou inquiétude. La joie de ce qui est ou fut contre l'angoisse de ce qui pourrait être. La vie de l'insensé, disait Épicure, est ingrate et inquiète. Elle se porte tout entière vers l'avenir. Aussi vivent-ils en vain, incapables d'être jamais rassasiés, d'être jamais satisfait, d'être jamais heureux. Ils ne vivent pas, ils se disposent à vivre, comme disait Sénèque. Ils espèrent vivre, comme disait Pascal. Puis, ils regrettent ce qu'ils ont vécu, ou plus souvent, ce qu'ils n'ont pas vécu. Le passé, comme l'avenir, leur manque. Le sage, au contraire, se réjouit de vivre, certes, mais aussi d'avoir vécu. La gratitude est cette joie de la mémoire, cet amour du passé, non la souffrance de ce qui n'est plus, ni le regret de ce qui n'a pas été, mais le souvenir joyeux de ce qui fut. C'est le temps retrouvé, si l'on veut, la gratitude de ce qui a été, dit Épicure, dont on comprend qu'il rende l'idée de la mort différente, comme dira Proust, puisque cela que nous avons vécu, la mort même qui nous prendra, ne saurait nous le prendre. Ce sont des biens immortels, dit Épicure. Non parce que l'on ne meurt pas, mais parce que la mort ne saurait annuler ce que l'on a vécu, ce que l'on a fugitivement et définitivement vécu. La mort ne nous privera que de l'avenir qui n'est pas. La gratitude nous en libère pour le savoir joyeux de ce qui fut. La reconnaissance est une connaissance, alors que l'espérance n'est qu'une imagination. C'est par quoi elle touche à la vérité qui est éternelle et l'habite. Gratitude, jouissance d'éternité. Cela ne nous rendra pas le passé, objectera-t-on à Épicure, ni ce que nous avons perdu. Sans doute, mais qui le peut? La gratitude n'annule pas le deuil, elle l'accomplit. Il faut guérir les malheurs par leur souvenir reconnaissant de ce que l'on a perdu et par leur savoir qu'il n'est pas possible de rendre non accompli ce qui est arrivé. Quelle plus belle formulation du travail du deuil! Il s'agit d'accepter ce qui est, donc aussi ce qui n'est plus, et de l'aimer comme tel, dans sa vérité, dans son éternité. Il s'agit de passer de la douleur atroce de la perte à la douceur du souvenir, du deuil à accomplir au deuil accompli, le souvenir reconnaissant de ce que l'on a perdu, de l'amputation à l'acceptation, de la souffrance à la joie, de l'amour déchiré à l'amour apaisé. D'où est le souvenir de l'ami disparu, disait Épicure. La gratitude est cette douceur même quand elle devient joyeuse. Pourtant, la souffrance est la plus forte d'abord. Comme c'est affreux, comme c'est atroce qu'il soit mort, comment pourrions-nous l'accepter? C'est pourquoi le deuil est nécessaire, c'est pourquoi il est difficile et c'est pourquoi il est douloureux, mais la joie revient malgré tout, comme c'est bien qu'il ait vécu. Travail du deuil, travail de gratitude. Alors, on va arrêter ça pour aujourd'hui. On va poursuivre dans les prochaines émissions. Comme je vous disais, on va avoir On va reparler des philosophes de l'Antiquité. Je vous donne la référence, justement, je vais parler de Frédéric Lenoir, Le rêve de Marc Aurèle, qui c'est un livre qui vient de sortir cette année aux éditions Flammarion. On va y revenir à Marc Aurèle. Je vous ai lu des extraits d'André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, c'est aux éditions Livre de poche, ça coûte une dizaine de dollars. J'ai parlé aussi de la revue Parabola, qui est le dernier numéro sur la gratitude. Je vous rappelle aussi qu'on a un café philosophique ce soir à la librairie La Liberté. La semaine prochaine, on aura le retour de Jacques Sénécal, la chronique de Jacques Sénécal. On va parler de la définition de la liberté dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la liberté, c'est pas la même liberté qu'aujourd'hui. Ça aussi, c'est important de revenir. Les notions, par exemple, de bonheur, de liberté, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. En tout cas, on va en parler la semaine prochaine. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, puis à la semaine prochaine pour une autre émission en toute simplicité.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 17 janvier 2025. D'ici l'an prochain, la Ville de Québec pourrait devenir la première ville capitale désignée comme région de biosphère par l'UNESCO. Le maire Bruno Marchand a annoncé mercredi que le dossier de candidature de la capitale nationale allait être déposé dans les prochains jours. Les régions de biosphère de l'UNESCO visent, entre autres, à protéger la biodiversité et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones. La Ville de Québec a notamment collaboré avec la nation Huron-Wendat pour sa candidature. On peut écouter le grand chef Pierre Picard.
Un territoire en santé, c'est un peuple en santé. La nation Wendat compte donc participer activement, tant au niveau des orientations stratégiques qu'au niveau de la délimitation des différentes zones de conservation.
Pour rappel, la Ville de Québec s'est engagée à protéger 30 % de ses milieux naturels d'ici 2030. Une étude menée par le Gris Montréal révèle une hausse préoccupante de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et de genre. Plus de 35 000 questionnaires ont été complétés par des élèves du secondaire dans plusieurs régions du Québec. Entre 2017 et 2024, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami a doublé. Il passe de 15,2 % à 30.